chronique d'Occulte Racine sur Radio Ranciel avec Lynn. Lecture du roman de Sarigan, tome 1, le livre d'Hélène, aux éditions 1115. Chapitre 3. L'heure de partir. Je viens ici pendant qu'elle dort. Du moins, je suppose qu'elle dort. Extrait des recueils d'Occulte Racine. Pour comprendre l'histoire de la fillette que tout le monde appelle Hélène, il faut remonter à l'époque de sa grand-mère, 35 ans plus tôt. Tout commença sur une plage brûlante de la Côte d'Azur, un après-midi de juillet. Gérard et Jacqueline Orban prenaient le soleil sur leur immense serviette colorée avec Sonia, leur fille de 2 ans, et Marie-Cécile, la sœur aînée de Jacqueline. Tous les quatre profitaient d'une semaine de vacances dans le sud, les yeux rivés sur l'horizon scintillant de la Méditerranée. Gérard, le grand-père d'Hélène, était un homme silencieux et autoritaire. Le genre d'homme qui ne parlait qu'avec les autres hommes et seulement si la discussion tournait autour du sport, de la politique ou des films de guerre. Il ne savait pas cuisiner, pas nettoyer la vaisselle et encore moins repasser ses chemises. Pour ça, il avait Jacqueline, la grand-mère d'Hélène. L'ennui avec Jacqueline, c'est qu'elle cuisinait comme un pied, qu'elle cassait un verre sur deux et qu'elle était moins douée avec un fer à repasser qu'une poule avec un couteau. Mais son problème surtout, c'est qu'elle aimait les hommes comme Gérard, les hommes virils et machos qui ne parlaient jamais et qui refusaient de laisser leur femme conduire une voiture ou discuter politique. Ce jour-là pourtant, Gérard fit une exception. Depuis le début de leur séjour dans le sud, Jacqueline rêvait d'aller se balader en mer. Elle évoqua si souvent l'idée que Gérard finit par céder, loua une petite embarcation et les jeunes parents partirent en virée sur les flots bleus de la Méditerranée en laissant leur fille Sonia avec sa tante sur la plage. Ramollie par l'écrasante chaleur et adoucie par l'air iodé du large, après une demi-heure de navigation sans l'ombre d'une vague, Gérard eut envie de se prélasser au soleil au fond de la barque. Jugeant qu'il n'y avait rien de compliqué à manier la barre, il laissa les commandes du bateau à son épouse. À 23 ans, pour la première fois de son existence, elle conduisait un engin. Cette journée aurait pu être la plus belle de sa vie, si sans raison, et en une fraction de seconde, Jacqueline Orban ne s'était pas endormie à la barre de la petite embarcation qui fonça tout droit sur un rocher, se brisa en 1000 morceaux et apporta avec elle les amoureux au fond de la mer. La petite Sonia Orban grandit donc sans ses parents et eut une enfance fort déprimante jusqu'à ses 23 ans lorsque par inadvertance, elle tomba enceinte d'un homme qu'elle venait à peine de rencontrer, dont elle ne savait pratiquement rien, et qu'elle ne revit jamais. De cette grossesse totalement imprévue naquit Hélène, 3,5 kg et une bouille déjà hors du commun. 5 années plus tard, tandis qu'elle ramenait sa fille de l'école après une harassante journée de travail, Sonia Orban s'arrêta à un feu rouge et s'endormit tout à coup. Une main sur le volant de sa voiture et l'autre par la fenêtre, une cigarette allumée au bout des doigts. Hélène et son endormie de mère furent donc transportées à l'hôpital par les pompiers et une fois sur place, une assistante sociale prit en charge la fillette. Quand cette dernière, inquiète et insistante, eut demandé pour la 20e fois où était sa mère, l'assistante sociale, excédée, lui répondit qu'elle s'en était allée dans le monde des rêves. Pour un bon moment, a priori. Peut-être même pour toujours. Remarquant l'expression bizarre de la fillette à cette annonce, elle précisa qu'elle pourrait la revoir chaque nuit dans son sommeil. Mais profondément blessée de savoir que sa mère était partie sans elle, et croyant qu'elle l'avait abandonnée, Hélène décida à cet instant qu'elle ne dormirait plus jamais. Si sa mère ne voulait plus la voir, elle non plus ne voulait plus la croiser au détour d'un cauchemar. Résister au sommeil pendant 1 heure, c'est une chose. 2 heures, c'est déjà beaucoup. Mais toute une nuit, quand on a 5 ans, autant dire que c'est mission impossible. Résister aux belles petites histoires, aux comptines bien chantées, aux lits qui vous bercent gentiment ou aux mains bien attentionnées qui vous câlinent. Ne pas fondre devant les magnifiques jouets qui produisent des dessins hypnotiques sur les murs. Vaincre les parfums enivrants du lavandin ou de la marjolaine qu'on vous dépose sur la table de chevet. Combattre le moelleux délicat des meilleurs matelas ou la fermeté des coussins ergonomiques. Quel supplice de chaque instant. Surtout les premières nuits, Hélène avait dû lutter de toutes ses forces et contre le monde entier, lui semblait-il. Elle avait dû s'entraîner longtemps, se faire à cette sensation de lourdeur permanente, à cette colère aussi, toute la journée qui la tenait éveillée. Après quelques mois de pratique, elle avait réussi à repousser ses limites au maximum. Mais elle n'avait pas réussi à éradiquer totalement le sommeil. Il y avait toujours un moment, au bout de la nuit, vers la fin, quand elle croyait le matin proche. Un moment où elle tombait tout à coup. Pas longtemps, juste le temps d'une absence. Pas assez longtemps pour rêver. Et jamais en journée. Non, elle n'avait jamais eu la moindre absence en journée. C'était bien la première fois. Anita, l'assistante du centre du sommeil, le fit remarquer à son supérieur, le médecin en chef qui n'écoutait pas un mot. « Tu n'étais jamais endormie en pleine journée, n'est-ce pas, Hélène ?» La fillette secoua la tête pour dire non. On pouvait l'accuser de beaucoup de choses, mais jamais d'avoir dormi pendant la journée. « Oh, mais je te connais, toi !» s'écria le docteur Philanthras. « Tu es déjà venu nous voir ? Tu es revenu tester notre matériel ? C'est gentil, ça !» Il eut un sourire qui dévoila une série de dents jaunes, puis reprit en donnant du menton. « Voyons ce que dit ton tracé. » Avec ses longs doigts osseux, il pianota sur un écran et ses gros sourcils mal taillés se mirent à faire du rodéo. « Dites donc, jeune fille, » reprit-il. « Ce n'est pas bon, vraiment pas bon. Tu vois ça, ce dessin ?» Il tourna l'écran vers la fillette. « Ça, normalement, ça devrait être le tracé d'une vieille dame, d'une très vieille dame, qui a tellement vécu qu'elle ne dort presque plus. Mais toi, tu as quoi ?» Il se tourna vers son assistante. « Elle a quoi ? 11 ans ?»« 11 ans, jeune fille ? Brrr, c'est beaucoup trop jeune, tu ne peux pas continuer comme ça. » Hélène le dévisagea de son air maussade depuis son lit d'hôpital. Un filet sur la tête, un boîtier en plastique sur la poitrine et des câbles de partout, certains collés à des électrodes, d'autres à des machines en dehors du lit. Le plus étonnant, jeune fille, c'est que ce n'est pas physiologique chez toi. Tes examens ne montrent rien, rien du tout. Ton corps, ton cerveau, tout va très bien. Si on me demandait, je dirais que si tu dors mal, c'est parce que tu ne veux pas dormir. Tu as sommeil, mais tu luttes. Il agita son vieil index en réprimande. Il ne faut pas lutter, jeune fille, pas lutter. Un autre médecin va la voir, un peu plus tard dans la matinée. Lui, elle ne l'avait jamais vu. Il était plus jeune, plus sportif, il se tenait droit. Il parlait bien, il ne bougeait pas beaucoup. « J'ai examiné ta mère. Comment faut-il l'appeler, dites-vous ?»«
Hélène, » répondit l'infirmier qui l'accompagnait.
« D'accord. J'ai examiné ta mère, Hélène. J'ai effectué des tests et je les ai comparés aux tiens. Elle comprend ce que je lui dis ?»
Le médecin se tourna vers l'infirmier qui lui fit signe de continuer.
« Vous êtes toutes les deux porteuses de la même maladie. Cette maladie affecte directement votre sommeil, en le déréglant.
Bon, c'est plutôt une maladie qui fait dormir. Et toi, tu ne dors pas beaucoup apparemment, mais ça n'empêche. Tu peux à tout moment plonger dans un sommeil sans fin dont personne ne saura te sortir. C'est ce qui est arrivé à ta mère. On appelle ça la maladie de la belle au bois dormant. Parce que ce sont généralement les femmes qui transmettent et développent cette maladie. Tout indique que c'est pour ça que tu t'es évanouie hier soir. Tu as fait une première crise, une petite crise. On peut te diagnostiquer, mais pour l'instant, il n'existe aucun traitement. C'est une forme de narcolepsie extrêmement rare et particulièrement difficile à gérer sur le plan médical. Ça demanderait des dispositifs bien trop coûteux pour le nombre de cas connus en France. En médecine, on appelle ça une maladie orpheline. Tu comprends ce que je dis ?
Elle comprend ce que je dis ?
Je pense, répondit l'infirmier, mais elle ne parle pas beaucoup, vous savez.
Non. Elle ne comprenait pas tout, mais elle se disait qu'à force de lutter contre le sommeil, elle n'avait sans doute pas rangé la situation.
On va te garder jusqu'à demain. Tu vas passer en secteur de jour, mais ce soir, on te remettra les appareils. Je veux que tu passes une deuxième nuit en observation. Après, on te laissera rentrer dans ton centre d'accueil. Je voudrais vérifier deux ou trois choses.
À la connaissance du médecin, toutes les femmes atteintes du syndrome de la belle au bois dormant faisaient leur première crise entre 20 et 30 ans. Souvent, c'était aussi leur dernière. Elles attendaient de devenir adultes, tombaient soudain dans le sommeil et ne se réveillaient jamais. Mais ils n'avaient jamais entendu parler du cas d'une fillette de 11 ans déclenchant de premiers symptômes. Qui plus est, une fillette insomniaque. En temps normal, elle aurait dû passer cette journée du vendredi à l'école. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Hélène aimait aller à l'école. D'après son expérience, il n'y avait pas meilleur endroit pour rester éveillée sans trop se fatiguer. Déjà parce qu'il était inacceptable aux yeux des professeurs que leurs élèves dorment en classe, y compris ceux qui les rejoignaient en plein milieu d'année scolaire. Mais aussi parce que les autres élèves lui rendaient presque toujours l'appareil lorsqu'elle leur tirait les cheveux sans raison, ou qu'elle mettait son pied au derrière des garçons de CM2. Certains refusaient de taper une fille, mais ils s'empressaient d'aller pleurer dans les jupons de leur maîtresse, ce qui revenait au même. Parce que les cris et les remontrances dans le bureau du directeur, ça la réveillait toujours bien comme il faut. En revanche, à l'hôpital, il était plus difficile de trouver des victimes capables de se défendre ou de lui rendre ses coups. Elle essaya de secouer son voisin de chambre ou de pincer la peau fripée de son bras, mais le monsieur n'était pas très réactif vu son grand âge. Il était surtout trop fatigué pour répondre à ses provocations. Elle n'avait même pas la force d'appuyer sur son bouton spécial afin d'alerter les infirmières. Donc, Hélène s'en chargea, à plusieurs reprises. Ça a enclenché au hasard les touches des appareils dans les chambres de l'étage, pour voir le personnel médical courir dans tous les sens, dévorer les crèmes au caramel des patients endormis, ou bien déplacer les crabataires en fauteuil roulant qui ne comprenaient pas pourquoi on les changeait sans cesse de chambre. C'est tout ce qu'elle trouva pour pimenter sa longue journée, son interminable journée dans le service d'hypnologie de l'hôpital de Nantes. Le même hôpital qui, deux étages plus bas, maintenait en vie une patiente plongée dans le coma depuis bientôt 6 ans, une certaine Sonia Orban. Quand les néons eurent tous grillé et que les plafonds furent allumés de leur lumière froide, quand les plateaux repas du dîner furent débarrassés et que son vieux voisin de chambre fut tombé de son lit pour la 3e fois en essayant d'aller aux toilettes, l'infirmière arriva enfin.
Elle invita Hélène à enfiler la chemise en papier qui lui servirait de pyjama et à la suivre vers la chambre équipée. Dans la pièce, un grand lit solitaire, une vieille lampe à la lumière tamisée et des câbles. De partout des câbles, un véritable chaos de fils électriques enchevêtrés de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Là, on lui colla des électrodes sur le front et à des endroits qu'elle ne comprenait toujours pas. On la brancha aux nombreuses machines clignotantes, puis on l'aborda, qu'elle soit bien saucissonnée sous l'épaisse couverture grise. « Maintenant, il faut faire un gros dodo », invita l'infirmière avant d'éteindre la lampe, de programmer les appareils et de se retirer le plus discrètement possible. Non seulement faire un gros dodo n'était pas dans les habitudes de la grincheuse Hélène, mais de toute façon, qui pouvait trouver le sommeil dans de pareilles conditions ? Elle avait chaud, elle pouvait à peine bouger, le filet sur ses cheveux lui grattait la tête, et pour couronner le tout, une araignée se baladait sur le mur d'en face. D'une manière très bizarre d'ailleurs. Comme si elle avait un pas désarticulé, claudiquant et hésitant. Hélène avait l'habitude des araignées. Elle savait où les trouver, comment les attraper, dans quelle position tenir ses mains pour les garder enfermées, afin de les faire descendre en douceur dans la bouche des ronfleurs. Elle avait joué à ce jeu pendant des années. Elle n'avait plus peur des araignées depuis longtemps. Mais celle-ci était vraiment différente. Pas seulement sa démarche, ses pattes aussi étaient bizarres. Son corps entier. Il avait une drôle de forme, irrégulière et asymétrique, à la façon d'une araignée qui aurait été écrasée, mais qui aurait survécu. L'animal passa sous les stores fermés de la fenêtre, réapparut sur le carrelage en titubant, et s'avança vers le pied du lit où Hélène le perdit momentanément de vue. Deux ou trois contorsions, un discret jeté de couverture et quelques arrachages accidentels de câbles plus tard, la fillette était penchée au-dessus de son dossier médical à chercher l'araignée disparue. Une feuille bougea. Hélène se pencha un peu plus. L'araignée était là, entre la deuxième et la troisième page du dossier, qui marchait sur les feuillets comme si elle suivait les lignes et tout ce qui était écrit, comme si elle lisait. Hélène eut un « étouffé et l'araignée s'arrêta aussi sec. Elle observait la petite humaine avec des yeux d'un vert si brillant qu'ils semblèrent vibrer dans leurs orbites tels de minuscules flambées d'émeraudes. La plupart du temps, Hélène n'arrivait pas à voir les yeux des araignées qu'elle attrapait. Mais là, elle ne voyait que ça. Et l'animal la fixait, ce qui était encore plus frappant. Le temps qu'il se décide à fuir, les soupçons de la fillette se confirmèrent. Ce n'était pas une araignée comme les autres. Ce n'était même pas vraiment une araignée. On aurait plutôt dit un jouet miniature fait de brindilles et d'écorce de bois, avec un abdomen en crotte de rat et une tête de graine. Mais qui bougeait et lisait les dossiers médicaux ? À présent qu'il s'était laissé retomber sur le sol, elle ne le voyait plus, mais elle continua à le chercher toute la nuit, sur le lit, sous le store, derrière les machines, sans jamais le retrouver. Hélène ouvrit les yeux. Elle avait un pied dans les fils de la machine, un bras coincé dans les draps et le corps renversé sur le sol, en train de baver sur le carrelage. Quelqu'un venait d'entrer dans la pièce, avec de hautes semelles compensées en liège et un pas claquant. Puis l'intruse s'assit sur ses talons et se pencha sous le lit pour saluer la fillette d'un sourire mâchouillant. T'es réveillée ? Cool ! Non, elle n'était pas vraiment réveillée. D'ailleurs, elle ne dormait pas. Elle faisait juste une petite pause. Sans café, c'était plus dur. Mais Hélène était si bien entraînée que plus rien ne pouvait l'empêcher de rester éveillée jusqu'au bout de la nuit. « Tu bouges ! » mâchouilla de plus belle l'infirmière. « Faut qu'on y aille !» La fillette se releva. Cette infirmière, elle ne l'avait jamais eue. D'un blond presque roux, les cheveux frisottés avec un teint de porcelaine, un sourire de greluche et deux petits yeux très verts, serrés et un peu de traviole dans sa blouse, toute froissée. Une blouse dont les liserés étaient très verts eux aussi. Du même vert précisément que ses yeux et que le vert au fond des yeux de l'araignée. « C'est bon, t'es prête ? Tu veux qu'on s'installe où ?» Ne comprenant pas, Hélène resta sans sourciller à l'observer de son regard à moitié ouvert. « Ok, t'as pas l'air de bien comprendre, toi. Y a pas une grosse dame avec une voix d'homme qui est passée te voir pour t'expliquer un peu plus tôt par hasard ? Genre hier soir ou tout à l'heure ? Non, tu vois pas. Eh oh, tu m'entends ? T'as l'air sonné. » La paupière gauche de la fillette eut un léger tressaillement, à peine un clignement d'œil. L'infirmière rouspéta, soupira, mâchouilla, puis reprit. « Je dois te dire, je ne suis pas encore super à l'aise avec la procédure et tout le tintouin, donc je vais faire court si tu es d'accord. En plus, faut qu'on se magne, sinon elles vont débarquer et on va y passer la journée. Tu t'assois là, je t'explique. » L'infirmière lui montra une zone du lit débarrassée des câbles électriques et des boîtiers en plastique. Hélène s'y assit sans broncher. « Bon, tu vois ce donut ? Il est beau, il a l'air bon, hein ? En fait, ce donut, c'est le meilleur du monde. Ce sont les mumus qui l'ont fait. Si tu croques dedans, paf, tu seras guéri. Tu peux même manger en entier si tu arrives à le finir. Après, on file à la serre, tu prends ton traitement et c'est réglé. Ça a été un peu l'embrouille côté administratif. J'avoue que j'ai toujours du mal avec cette partie-là, mais pour l'instant, ça devrait passer. Le reste, je t'expliquerai plus tard. En gros, après la serre, je sais pas trop si tu vas pouvoir retourner dans ta maison des sœurs machin, mais bon, on s'en fiche. Tu seras guérie et ça, c'est le plus important. Allez, tiens, bon appétit !» Trop d'informations pour le cerveau encore ensommeillé d'Hélène. Elle avait entendu « tu seras guérie » et elle avait compris « tu n'auras plus jamais à dormir et tu ne seras plus jamais fatiguée ». Et pour elle, c'était suffisant. Elle prit le donut au glaçage blanc et croqua à belles dents. Un peu pâteux à jeun. Un verre d'eau n'aurait pas été de refus. Mais c'était de loin le meilleur donut qu'elle eût jamais mangé. Raffiné et parfaitement riche à la fois, avec un merveilleux goût rassurant et mille saveurs délicatement familières. Si bon et si évident qu'elle se laissa glisser sur le gros oreiller sans même s'en rendre compte. Voilà, voilà, tu vas faire un petit roupillon et on y va.
Comment ça, un roupillon ?
Le temps qu'elle comprenne, Hélène voulut cracher sa dernière bouchée. Mais elle venait d'avaler, c'était trop tard. Le donut faisait déjà effet. Le sommeil l'avait attirée au fond du lit comme jamais. Elle voulut résister, elle fit appel à toute sa volonté, à toute sa colère et à toute son énergie. Mais elle s'enfonça progressivement malgré ses efforts. La dernière chose qu'elle entendit avant de sombrer, ce fut la voix de l'infirmière, tandis qu'elle se mettait debout à côté d'elle en se frottant les mains. « Ok, c'est l'heure de partir. C'est là qu'il faut que je me concentre. »
Thank you.